Donc j'invite Hugues Rangatsoa, j'invite Catherine Gaillard, Catherine Wittkock, Jean-Félix et Franck Lecher à venir s'installer. Donc, ben, merci à tous. Le sujet dont il va être question pendant cette première heure, donc jusqu'à un petit poil après 11 heures, ce sera comment on passe de la stratégie nationale d'inclusion numérique et de tous les outils et modalités de financement qui nous ont été présentés à des outils ou des solutions concrètes à l'échelle de l'agglomération. Bon, les constats, hein, encore une fois, on ne va pas y revenir, ils sont partagés de tous. Hein, c'est un constat que de nombreux publics sont touchés, que notre territoire n'est pas épargné et qu'il y a une nécessité d'agir aux différentes échelles de notre organisation territoriale en s'appuyant sur les outils de l'État. L'autre constat qu'on avait déjà fait l'an dernier, c'est qu'il y a une multiplicité d'acteurs et c'est extrêmement important de voir la richesse et toute l'énergie qui est mise pour combattre l'illectronisme, à la fois des acteurs institutionnels, des acteurs bénévoles, des acteurs associatifs. La question qu'on va discuter aujourd'hui, c'est comment organiser toute cette énergie et comment faire en sorte que réellement ces outils, ces solutions, ces moyens bénéficient au public cible bénéficient aux citoyens. On a vu qu'il faut des gens, des bénévoles, des professionnels, des experts. On a vu qu'il faut des lieux, et ça a été évoqué tout à l'heure par Léa et François. On a vu qu'il faut des outils, hein, parmi lesquels des revues, des logiciels et tout ça. Ce qu'il faut aussi, c'est une vision stratégique, une vision pour se projeter dans l'avenir. Et c'est le sujet dont Hugues Rangatsoa va nous présenter en nous montrant comment la communauté Paris-Saclay s'organise pour justement organiser la vision du territoire. Alors il y a une catchbox, je ne sais pas s'il faut appuyer sur un bouton.
Elle est déjà active.
Ah ben voilà, normalement, est-ce que vous entendez Hugues? Ah oui.
Voilà. Bonjour à tous, tout le monde m'entend?
Ça va derrière? Vous entendez?
Je parle un peu plus fort. Ok. Donc bonjour à tous, donc je me présente, Hugues Rangatsoa, je suis chef de projet transition numérique et innovation territoriale à l'agglomération Paris-Saclay. Je représente aujourd'hui Francisque Vigouroux, notre vice-président notamment chargé de l'inclusion numérique à l'agglomération. Et donc, pour illustrer les propos qu'on vous a présentés en introduction, je vais vous parler notamment de l'enquête, le baromètre qu'on a lancé à la rentrée de cette année, pour justement essayer de comprendre où se situe le territoire par rapport à l'inclusion numérique. Déjà, il faut savoir, bonne nouvelle, c'est que nous sommes un territoire qui est plutôt bien équipé en termes d'équipement numérique, puisqu'aujourd'hui, plus de 96% de la population est équipée en smartphone, un petit peu moins en ordinateur, mais ça représente en fait finalement une moyenne très élevée par rapport à l'ensemble du territoire, voire même de la région, puisque la région c'est 92% et la France c'est 86%, quelque chose comme ça. On reste quand même sur un territoire qui est extrêmement bien couvert aussi en Internet, que ce soit fixe ou mobile, puisqu'on a seulement 1,2% du territoire qui n'est pas encore couvert ni par la 4G, 5G, ni par la fibre. Et 86% en fait de la population qui s'estime confiante sur leur capacité à utiliser les outils informatiques. Alors, ça reste des chiffres positifs au global, mais il faut quand même savoir qu'il y a des tranches de la population qui restent plus ou moins exclues du numérique, notamment les personnes qui sont éloignées du travail. Alors, on fait la distinction avec les demandeurs d'emploi, qui aujourd'hui restent des populations plutôt à l'aise avec le numérique, que ce soit pour rédiger un CV ou postuler à des offres d'emploi. Là, on parle vraiment des populations qui sont éloignées, qu'elles soient en réinsertion, qu'elles soient au contraire d'origine étrangère et qui cherchent un emploi pour la première fois en France. Et donc, pour ces personnes-là, aujourd'hui, on n'est pas loin de plus de 25% d'entre elles qui, aujourd'hui, sont vraiment en difficulté. S'ajoute à ça également 28% de la population. Là, cette fois-ci, c'est toute population confondue. Comme disait tout à l'heure ma confrère de l'ANCT, on parle notamment des digital natives, donc des personnes qui sont nées à l'ère du digital, qui aujourd'hui renoncent ou ont des difficultés à réaliser des démarches administratives sur Internet. Là, ça représente quand même pas loin de 25% de la population. Et enfin, un dernier point pour compléter ce que je viens de dire, c'est qu'on a aujourd'hui pas loin de 25% également de la population qui aimerait être formée, qui aimerait être accompagnée, non pas pour qu'on réalise les démarches à leur place, mais pour qu'on les rende plus autonomes. Et ça, c'est extrêmement important parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas que les personnes âgées, ce ne sont pas que les demandeurs d'emploi ou même les personnes d'origine étrangère qui demandent de l'aide, c'est vraiment toutes les personnes confondues. On est vraiment étonnés, hein, agréablement surpris des retours de cette enquête. Mais voilà. Juste un dernier point pour terminer. Il faut savoir que, comme l'a dit Stéphanie Morland en introduction, l'agglomération a voté sa feuille de route inclusion numérique cette année, dans laquelle on a mis en priorité pour 2025 notamment le fait de renforcer l'accompagnement, tel que je l'ai précisé tout à l'heure, mais également de pouvoir appuyer l'ensemble des partenaires locaux déjà existants, donc tels que Caton, mais aussi la MEF, donc la Maison pour l'Emploi, afin justement... donc de développer les services d'accompagnement à la population, mais également de renforcer ou d'améliorer ce qui existe déjà. L'idée, c'est pas non plus de réinventer la poudre, mais c'est aussi de pouvoir conforter ce qui existe pour pouvoir capitaliser sur les expériences réussies et les développer plus tard.
Tu me fais une parfaite transition parce que ce qui existe déjà, on va se tourner vers les villes, vers les mairies ou les représentants des villes pour nous en parler et aussi revenir un petit peu dans le passé, comment ces sujets sont arrivés. Donc je t'invite à passer la box à Catherine Gaillard.
Merci.
Catherine Gaillard, donc, qui est l'adjointe en charge de la politique de la ville et de la cohésion sociale à Longjumeau et qui va nous expliquer comment, à l'échelle locale, avant même que la communauté d'agglomération existe, comment ce sujet est arrivé comme un sujet important pour les villes.
Bonjour à tous.
Alors je crois qu'il faut vraiment... J'ai l'impression qu'il faut être très très... Ouais. Ouais. C'est l'inclusion numérique c'est et c'est même...
Un nouvel outil. Donc moi je voulais vous partager...
Ça va pour tout le monde là, oui?
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, j'ai l'impression que c'est bon.
On m'entend, c'est bon.
Merci Catherine.
Donc moi je voulais vous partager l'expérience longjuméloise concernant l'usage du numérique. Puisqu'en fait, c'est un sujet, effectivement, qu'on partage aujourd'hui, mais qui se pose déjà depuis la fin des années 90, puisque à cette époque-là, s'est posé la question de l'accès aux outils informatiques et également l'accès à Internet, l'Internet public qui arrivait. Et effectivement, les villes se sont posé la question de l'accès à ces outils qui n'étaient à ce moment-là pas encore dans tous les foyers. Donc, à Longjumeau, très rapidement, on a ciblé les populations qui en avaient le plus besoin et ont été créés les espaces publics numériques, car à cette époque-là, le dispositif aussi bénéficiait de financement, ce qui nous avait permis à cette époque donc de développer un espace public numérique au sein de la médiathèque qui était destiné au public jeune, famille, senior. Un espace public numérique également qui avait été mis en place au sein de la maison de quartier, donc là, qui était plutôt destiné au public du quartier politique de la ville. Et ensuite, l'espace numérique au PIGE, Point Information Jeunesse, pour les jeunes, donc pour faciliter leur démarche de recherche, de formation, de stage, des jobs d'été, etc. Parallèlement à cet outillage, à ces points d'accès, s'est posé la question de l'acquisition du matériel. Donc, dès le début des années 2000, on a mis en place en fait une vente informatique pour tous à des prix très très attractifs, quasiment moins de 100 euros, avec d'ailleurs par la suite des financements de l'agglomération pour aider la ville aussi à participer à ce financement des outils, avec Ecoder, qui est toujours notre partenaire d'ailleurs dans cette vente informatique pour tous. Au fil du temps, s'est posé quand même le problème des financements, parce que espace public numérique, ça veut dire aussi du personnel pour encadrer, donc des animateurs multimédia à cette époque qui étaient recrutés. Mais effectivement, ça c'est devenu avec, on va dire, les difficultés financières et budgétaires que peuvent connaître les villes, la question s'est posée d'arbitrage concernant les postes qui devaient être maintenus ou pas. Et effectivement, on va dire que certains postes ont été un petit peu en difficulté sur les espaces publics numériques lorsque les financements ont été arrêtés sur ce dispositif. La deuxième étape a été bien évidemment la crise Covid, qui a mis en évidence l'importance du numérique et la fracture numérique avec l'exclusion quand même d'un certain nombre d'habitants sur l'accès finalement aux services publics, l'accès aux droits. Et à cette époque-là aussi, on a vu l'importance du e-commerce pour pouvoir aussi accéder, faire ses courses simplement lorsqu'il n'y avait pas d'autres moyens de se déplacer. Donc là, effectivement, une réflexion s'est posée à savoir comment on devait faciliter l'accès au numérique, mais pas seulement l'accès, puisque effectivement, être équipé, c'est bien, avoir des lieux, c'est bien, mais savoir s'en servir, c'est mieux. Beaucoup de populations, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais sont effectivement en situation d'exclusion, en particulier quand même dans les quartiers en politique de la ville, que ce soit les seniors, que ce soit les personnes en difficulté linguistique, ou encore effectivement les jeunes qui n'ont pas forcément un usage au-delà des jeux et des réseaux sociaux. On a à ce moment-là, dans la suite, candidaté pour la Maison France Service. Donc à Longjumeau, nous avons une Maison France Service au sein de la Maison de la Fraternité qui permet effectivement aux populations les plus en difficulté d'accéder aux droits, d'accéder aux services publics et d'avoir une assistance aussi sur tout l'accompagnement social.
Est-ce que tu partages ce que nous a dit François tout à l'heure, le fait que concrètement c'est un succès et que c'est maintenant un outil qui est vraiment utilisé par les citoyens ? Est-ce que c'est ce que vous voyez à Longjumeau ?
Tout à fait. On est même débordé un peu par notre succès. Je pense que toutes les maisons France Service connaissent ça aujourd'hui, puisque la Maison France Service, ça couvre un territoire. Donc il a fallu s'organiser. Effectivement, on a des personnels qui sont en charge de cet accompagnement, mais il a fallu s'organiser et on a recruté, alors c'est en parallèle, je vais faire le lien, un conseiller numérique à ce moment-là, puisqu'il fallait s'organiser pour mettre en place des actions. Le conseiller numérique, c'était bien, mais au-delà de ça, il nous fallait réellement une coordination numérique sur la ville. Parce que chaque structure, chaque service faisait un petit peu sa tambouille avec son public et montait des actions en parallèle. Et la coordination s'est vraiment apparu comme un sujet important. Donc on a fait évoluer le poste de conseiller numérique sur un poste de coordinateur des actions et des projets d'inclusion numérique et sociale. Qui nous a permis en fait d'avoir une réflexion beaucoup plus globale et d'être ici aussi avec vous pour participer à cette feuille de route et à cette réflexion un peu plus stratégique sur les enjeux, les financements et les actions à mener auprès des différents publics qui en ont besoin.
Cette personne clé est ici présente, si je ne m'abuse, pas loin de moi. Voilà. Donc, un grand merci. Alors, Catherine, pour ce témoignage très concret. Tu peux passer la main à l'autre Catherine, Catherine Vitcock, donc adjointe à la mairie de Palaiseau, chargée du développement économique, de l'emploi et de la diffusion de la culture scientifique. Même chose, le petit test micro pour voir si tu es inclus numériquement.
Bon, tout le monde m'entend. Bonjour Raymond. Bonjour à tous et à toutes.
Et tu as toi-même aussi un petit flashback dans le passé, parce que ce que j'avais trouvé intéressant dans nos échanges, c'est de voir d'où vient à la base cette initiative qui est venue des citoyens.
Tout à fait. Alors, moi, je suis en charge du développement économique et de l'emploi. Et je dirais en introduction qu'on a parlé beaucoup de l'inclusion numérique sur le volet social, mais c'est aussi un défi économique et je reviendrai dessus et je vous expliquerai pourquoi. Alors, à Palaiseau, je dirais qu'on n'est pas aussi en avance qu'à Longjumeau, puisqu'en fait, la demande d'avoir un lieu où il puisse y avoir de l'aide à l'outil numérique émane du Conseil des aînés, qui avait en 2019 demandé au maire de créer cet espace numérique, puisque nous n'avons pas de maison France Service à Palaiseau. Et donc, dans le programme de 2020, il a été prévu justement de répondre à ces besoins essentiellement destinés aux aînés, puisque c'était le Conseil des aînés qui avait fait cette demande. Et derrière, il a été créé un poste. Donc, il y a un chargé de mission numérique, ici présent, d'ailleurs, aujourd'hui, Franck Delbossio, on peut l'applaudir.
Un de chaque côté, on est bien entouré.
Et ce poste est financé depuis 2021, puisqu'il a été embauché en 2021, si j'ai bonne mémoire. 2020. Voilà. Et donc, il a fallu trouver des locaux, il a fallu équiper également l'espace et puis voir dans quels endroits il serait plus opportun, justement, de rencontrer les personnes qui seraient intéressées par l'apprentissage d'outils numériques. Et ce poste est financé complètement par la ville. Donc je suis contente d'avoir entendu tout à l'heure à la Banque des Territoires dire qu'il peut y avoir des financements. Peut-être qu'on pourra, compte tenu des difficultés de ce qui nous est annoncé pour 2025 au niveau des mairies, d'avoir des aides. D'autant que les besoins en termes d'utilisation du numérique vont croissant. Comme le disait ma collègue de Longjumeau, au départ, c'était le Conseil des aînés qui nous avait sollicité, mais finalement, depuis 4 ans, c'est aperçu qu'il n'y a pas que des personnes d'un certain âge, il y a aussi des personnes plus jeunes. Et très rapidement, donc, Franck Delboccio s'est rendu compte qu'il avait énormément de demandes et qu'il n'allait pas pouvoir faire face à toutes les demandes. Donc, il a regardé vers les associations qui sont en lien avec, justement, des populations, on va dire, plutôt défavorisées et qui n'ont pas forcément les outils numériques chez elles parce qu'elles n'en ont pas les moyens ou qui n'ont pas pu non plus se former. Et il a réussi à trouver deux personnes de la Croix-Rouge qui aussi étaient compétentes parce que c'est bien de faire des points d'accueil numériques, mais faut-il avoir aussi les gens compétents pour pouvoir les animer. Et donc, deux personnes à tour de rôle, je crois, au départ, hein, t'ont rejoint pour pouvoir t'aider à accueillir toutes ces demandes. La Croix-Rouge. Hein. Donc, il y a un partenariat qui a été monté et officialisé avec la Croix-Rouge. Depuis, il y a plusieurs autres bénévoles qui l'ont rejoint. Alors, au départ, ce point numérique était destiné aux personnes âgées et en situation de grande précarité numérique, donc c'est-à-dire sans matériel et puis ou en incapacité de s'en servir. Et il y avait aussi un autre objectif qui est toujours prépondérant, mais qui a été un peu mis de côté au démarrage, c'était d'organiser des formations pour des personnes qui avaient besoin de se former et de les rendre autonomes. Même si elles savaient se servir d'un ordinateur, sur certains logiciels, elles ne sont pas forcément autonomes. Finalement, les besoins ont évolué par rapport aux objectifs initiaux. Et aujourd'hui, les personnes âgées sont formées pour utiliser l'outil numérique. Mais ils sont aussi aidés aux démarches administratives. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'État, dans tous les services de l'État, on a quasiment tout numérisé. Mais ça devient de plus en plus compliqué de s'en servir. Et j'ai encore en mémoire, pour vous citer un exemple, la déclaration fiscale de cette année pour mon père qui a 94 ans, où l'année dernière, le service des finances, la DGFiP, a eu la bonne idée d'introduire tout le volet immobilier à déclarer, et que cette année, ils l'ont remis, et là, ça, on s'y perd, il faut revenir en arrière. Et bon, quelqu'un qui a 90 ans, qui a eu l'habitude d'utiliser un ordinateur aujourd'hui, on va dire qu'il n'est pas déficient, mais il ne s'y retrouve plus. Donc, je pense que la grosse difficulté aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure, effectivement, de la fracture numérique, mais même si les personnes âgées, on les aide à utiliser l'outil numérique, à partir du moment où elles ont des démarches administratives à faire et qui ne sont pas récurrentes et qu'il faut refaire qu'une fois par an, ben, elles n'auront pas mémorisé ce qu'il fallait faire. Et du coup, je crois que cette aide sera nécessaire et devra même être développée, comme vous l'avez fait à Longjumeau, pour pouvoir aider ces populations qui vont vieillir. Alors, je ne parle pas des... Oui, je ne parle pas de ça. Ouais. Oui, je vais revenir sur le volet un peu économique et qui est en lien avec les jeunes, parce que en fait, en fonction... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas le retour sur les transparents. Je ne sais pas trop où vous en êtes derrière. Pour la lecture,
non, mais tu...
C'est pas grave. Non, c'est bon.
Tant que tu as ton message qui...
Vous suivez ma parole, c'est très bien. Alors, on parle essentiellement des personnes âgées, mais aussi les jeunes, que nous n'accueillons pas forcément dans notre espace numérique à Palaiseau, et qui sont accueillis notamment à la mission locale. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la mission locale Vitalis aujourd'hui ici présent, mais ces jeunes, ils sont accueillis à la mission locale. Et il faut savoir que pour l'emploi, la recherche d'emploi, il y a deux freins. Il y a le frein des transports et il y a le frein du numérique. Donc si vous n'avez pas les moyens de transport en adéquation, vous n'avez pas de permis, mais vous n'avez pas non plus tous les transports en commun pour pouvoir vous rendre sur un lieu de travail, eh bien, vous ne pourrez pas décrocher ce job. Ou si vous n'avez pas la capacité d'utiliser Internet ou de même faire un CV pour envoyer à un employeur ou encore à mettre en ligne votre CV, eh bien, vous ne pourrez pas non plus décrocher ce job. Alors, nous, on ne les accueille pas énormément à Palaiseau, parce qu'ils vont, ceux qui sont dans cette situation, ils vont essentiellement à la mission locale. Je n'ai pas les statistiques ici, mais je voulais quand même mettre l'accent sur cette catégorie de population. Alors après, sur les personnes que nous avons reçues, je crois que c'est 1000. En 2023, on a reçu 1315 personnes à Palaiseau. Donc essentiellement, vous le verrez sur le graphe, des personnes de plus de 65 ans, avec une majorité de femmes. Et alors, il y a plusieurs explications hein, sur l'accueil de femmes. Il aurait fallu peut-être découper entre 65 et puis 80 et voir quelle est la tranche où il y a le plus de femmes. Mais à un certain âge, il y a des femmes qui se retrouvent veuves et qui, malheureusement, n'ont pas eu l'usage du numérique de façon, on va dire, régulière, même si beaucoup maintenant ont des tablettes. Hein, on voit les dames lire avec des tablettes. Et donc, du coup, elles ont besoin d'être aidées également pour tout un tas de démarches administratives, que ce soit les impôts, la sécurité sociale. Donc, voilà en ce qui concerne les populations. Après, sur le volet communication, évidemment, on se sert du magazine de la ville, du site Internet. Il y a un certain nombre de points, comme les maisons de quartier, qui relient l'information et qui permettent aux personnes intéressées pour être accompagnées de venir rencontrer Franck ou également des personnes qui sont bénévoles et qui l'aident.
Voilà. Ce sera sûrement un point, d'ailleurs, la communication sur lequel l'agglomération aura probablement des outils, des solutions à proposer pour intégrer et faire gagner, économiser de l'énergie à chacun des acteurs.
Tout à fait. Voilà.
Ok.
Je crois que je fais à peu près le tour.
En tout cas, merci parce que tu auras l'occasion de te réexprimer, Catherine. Mais merci en particulier
J'ai juste aussi un petit clin d'œil quand même au sujet des grandes écoles, puisque nous sommes à Palaiseau et que nous avons la chance d'être accueillis aujourd'hui à Télécom Paris. Alors, dans la recherche de personnes pour nous accompagner, on souhaite aussi, ça fait déjà un moment qu'on avait rencontré Télécom Paris l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, Franck, l'année dernière. On espère pouvoir monter aussi un partenariat avec ces grandes écoles pour pouvoir venir nous aider à utiliser ces outils numériques et à nous accompagner dans nos démarches administratives. Parce que c'est un peu dommage d'être sur ces territoires et que chacun, finalement, reste un peu enfermé dans ces structures. Voilà. Donc, que là, on arrivera à trouver...
C'est une ouverture très intéressante sur laquelle, également, on reviendra dans l'échange libre et qui me permet aussi d'ajouter, puisque ça avait été l'objet l'an dernier d'une intervention d'une vice-présidente de l'université, qu'il y a aussi dans les universités jusqu'au niveau master des gens qui aussi souffrent de l'inclusion numérique, qui sont en difficulté, comme tu l'as dit, pour rédiger un CV malgré un niveau d'études élevé, voire simplement pour accéder aux outils pour suivre les cours à distance ou autre. Donc, le lien avec les grandes écoles, et on y reviendra tout à l'heure, est certainement pertinent à deux titres, à la fois en tant que ressource de bénévolat, ressource d'outils, ressource d'énergie via des projets d'études, mais aussi parce qu'une partie du public cible s'y cache et on peut l'oublier. Merci pour ce témoignage très riche qui à la fois nous a reparlé de l'insertion, ça donnera le lien tout à l'heure à l'intervention de Franck, mais aussi nous a rappelé le lien avec les associations et c'est à ce titre-là que tu as donné la box à Jean-Félix. Jean-Félix qui est le président et l'initiateur de l'association Caton à Gif-sur-Yvette et qui est une initiative consécutive à la crise du Covid dont je veux bien que tu nous redises les objectifs.
Bien, bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer si nombreux aujourd'hui, particulièrement en ce jour 21 novembre, car ce jour-là est les jours du 4e anniversaire de la création de Caton par un certain nombre de gens qui sont ici présents dans cette salle, qui étaient membres de Caton.
Ça vaut des applaudissements d'anniversaire, je pense.
Donc, je remercie les membres fondateurs ainsi que tous ceux qui les ont rejoints de leur soutien à notre projet que décline son nom, Cap vers l'accès de tous aux outils numériques. Cet anniversaire est l'occasion de rappeler quelques faits marquants de nos activités au cours des 4 dernières années. Elles nous ont conduits avec nos partenaires à la préparation de la feuille de route pour l'inclusion numérique de l'agglomération Paris-Saclay. La création 2020 de Caton a découlé, on l'a rappelé tout à l'heure, du ressenti partagé par ses fondateurs et une grande partie de la population suite au confinement rigoureux qui a été imposé en France à tous les habitants pour lutter contre la pandémie de Covid-19. On a un peu oublié, mais c'était quand même extraordinairement rigoureux. Cet isolement a en effet mis en lumière le problème préexistant de l'isolement d'une partie de la population pour non-maîtrise des outils numériques. Plusieurs observatoires ont souligné que, loin de se résorber, le problème de l'électronisme, un mot un peu barbare, est en augmentation au lieu d'être en régression. Les résultats de sondages express que nous avons menés tout au long de la vie de Caton, ainsi que les contacts avec que des membres ont pu avoir lors des rencontres avec différentes associations, ont montré, cela a déjà été dit, qu'il existe de nombreux services d'accompagnement aux usages numériques dans l'ensemble du Nord-Ouest Essonne. Deuxièmement, que ces services sont ignorés par une très large majorité des personnes qui pourraient s'en servir. Troisièmement, que les difficultés d'usage numérique, ça a été dit également, ne se limitent pas à certaines populations cibles qu'on a tendance à cibler, mais couvrent beaucoup plus largement des gens jeunes, y compris des étudiants, comme l'a rappelé tout à l'heure Pierre. Et enfin, dernier point, et ce n'est pas le plus anodin, c'est que de nombreux acteurs locaux, de toute nature, sont conscients de ce qu'on appelle la fracture numérique. Mais ils n'en font pas une priorité, il y a tellement d'autres sujets, et ils n'en parlent pas. Donc ça nuit beaucoup à l'efficacité des actions qui peuvent être menées à ce sujet-là. Ces observations ont été le fondement des activités de Caton qu'elle a menées avec la MEIF Paris-Saclay, que je voudrais saluer, et en particulier Inès Garousse, qui pendant 4 ans a été un support fondamental à toutes ces activités. Je rappellerai simplement les actions qu'on a pu mener ensemble. Il y en a au moins 4. C'est tout d'abord la première qui a eu lieu avec le conseil municipal des Ulysses, où nous avons eu l'occasion de rencontrer et d'échanger un certain nombre d'acteurs et de gens qui étaient eux-mêmes victimes des problèmes d'électronisme. Deuxièmement, nous avons eu une journée dans ces locaux ici qui s'appelait « Agir ensemble pour l'autonomie et l'inclusion numérique » en 2022. En 2023, nous avons eu les semaines des usages numériques qui ont été montées avec le collectif Sun. Nous avons ensuite contribué à la préparation de la feuille de route de l'agglomération Paris-Saclay. Et enfin, nous contribuons à la préparation de cette journée.
Méfie-toi que ta catchbox purement numérique, voilà, elle n'aime pas le monde physique.
Ok.
Quand ça frotte, ça fait du bruit.
Donc cette feuille de route donc vous a été présentée, je ne m'étendrai pas. Elle prévoit notamment, et je voudrais souligner un des mots qui figure dans les textes même de la feuille de route, que 30% de la population sera touchée par la communication grand public au sujet de l'inclusion numérique d'ici 2027, ce qui veut dire un programme dense, massif, pour pouvoir communiquer à ce sujet-là. C'est un pas essentiel pour nous, des actions concertées, des acteurs locaux, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Cette concertation conditionne en effet largement le succès des actions à mener au profit de la grande variété des populations dont on a parlé. Je voudrais signaler que l'image des premiers de la classe sur le plateau de Saclay masque parfois la réalité des territoires du Nord-Ouest Essonne. Je crois que beaucoup en sont conscients. Pour contribuer à cette action, Caton a développé un site. Il est destiné à rendre visibles les actions locales pour l'inclusion numérique. Caton a bénéficié pour cela du soutien financier de la Fondation Vinci pour la Cité. Je ne crois pas qu'il soit présent. Si, ben voilà. Je voulais donc remercier particulièrement Jean Vianney Dallouin, qui est directeur à Coffee Route et qui a soutenu notre projet auprès de la Fondation, ainsi que Martial Chevreuil et Thomas Fauvel, qui est un non-voyant, mais qui a également piloté l'ensemble de ce projet, qui est pris par d'autres obligations aujourd'hui. Merci également de leur concours pour développer ce site. Ce site comprend 4 fonctions essentielles. D'une part, un outil classique de recherche de services d'accompagnement dans un répertoire, une cartographie. Deuxièmement, un calendrier d'événements locaux liés aux usages numériques. Pour l'instant, il est surtout nourri des activités de la MEIF Paris-Saclay. Vous êtes bienvenus pour nous donner et nous informer sur les événements qui vont se développer. Et je ne doute pas qu'ils vont se multiplier dans les prochaines semaines. Des brefs d'actualité liées au numérique, Dieu sait s'il y en a, sans oublier le rapport de la Défenseure des droits il y a quelques jours. Et des onglets pour des contacts et des propositions à faire figurer dans ce site. Ce site a connu depuis sa mise en ligne, il y a 2 mois, une importante fréquentation. Mais un long chemin reste à parcourir pour impliquer dans une dynamique concertée et durable pour l'inclusion numérique les acteurs en contact avec des personnes en précarité numérique dans notre territoire. Il s'agit des bénévoles et professionnels, des structures institutionnelles, socio-éducatives, économiques, qui ne sont pas des médiateurs numériques, mais qui les côtoient les personnes en difficulté et pourraient fort utilement intégrer l'orientation vers la médiation numérique à leurs activités caritatives pour la plupart du temps. Notre atelier cet après-midi, co-construire des relais, est consacré à ce thème-là et vous êtes évidemment invités à le rejoindre. D'autre part, le site Caton pourra vous être présenté sur la table que nous tenons dans le hall où l'un d'entre nous ou plusieurs d'entre nous seront à votre disposition pour vous le présenter.
Il nous faudra l'adresse parce qu'on voit le lien, mais on ne peut pas quitter cet amphithéâtre sans que tu nous aies donné l'adresse. Bah, super.
Bon. Et ce site donc doit devenir une plateforme. C'est notre objectif pour l'année prochaine. Et cette plateforme doit devenir la vôtre. Nous accueillerons tous ceux qui désirent contribuer à son développement et à son animation. Donc on est totalement ouvert pour pouvoir y travailler ensemble, pour qu'on en fasse un vecteur d'échange et de coordination partagé pour lutter ensemble contre la fracture numérique. Et on vous attend très nombreux sur notre stand dans le hall.
Merci beaucoup Jean pour cette initiative. Et donc on a vu le site, donc caton-paris-saclay.org. Merci. On voit donc l'accès au numérique, ça repose sur plein d'acteurs de terrain, des élus, des professionnels. On a vu Francisco, Inès, Franck, une grande partie d'entre vous. Ça repose aussi sur des lieux, et en particulier autour de la thématique de l'inclusion évoquée par Catherine. Je vais passer la parole donc à Franck Lecher, qui est directeur général de la Maison de l'Emploi, de l'Insertion et de la Formation Paris-Saclay, qui, entre autres activités, a créé un lieu.
Pas que ça m'amuse la boîte, mais tout le monde m'entend. Mais
moi, je peux prêter le micro et me farcir la boîte, hein, parce que rôle, moi, mais... Non,
le ridicule.
Tu gardes ? Allez.
Alors, avant de parler de la place du numérique, je voulais juste resituer ce qu'est la Maison de l'Emploi, de l'Insertion et de la Formation de Paris-Saclay, parce que, essentiellement, notre activité, elle est basée autour de l'accueil, de l'accompagnement des publics en recherche d'emploi et des publics dits adultes, plus de 26 ans. C'est là où on fait la part avec la mission locale qui s'occupe des 16-25. Donc vraiment, nous, notre rôle, c'est l'insertion professionnelle de ces publics-là. Et depuis maintenant 2021, je pars sous le couvert d'Inès, existe la place du numérique, donc qui est un lieu spécifique dédié toujours à l'accueil, à l'accompagnement des publics. Alors là, au sens large, hein, j'ai toujours tendance à dire de 7 à 77 ans, alors que notre public, nous, c'est 26-65 en règle générale. Mais c'est un prétexte pour accueillir cet ensemble du public à travers le numérique et aborder des sujets d'insertion professionnelle. Puisque quand on accueille un enfant sur du jeu pour éviter les addictions à travers le jeu, par exemple, on va discuter avec ses parents qui peut-être, eux, sont en recherche d'emploi et ou les grands-parents qui accompagnent, qui ont peut-être un petit-fils, une petite-fille qui est en recherche d'emploi. Et du coup, on fait ce lien-là. Ça nous permet du coup de ramener à notre cœur de cible qui est du coup l'insertion professionnelle. Et donc, sur la PDN... Outre ce lieu d'accueil et d'accompagnement sur des approches très larges liées aux besoins du numérique, on essaye d'amener aussi une réflexion sur des perspectives d'insertion professionnelle, puisque aujourd'hui et demain encore plus, tous les métiers, de près ou de loin, auront une part du numérique. Aujourd'hui, il n'y a pas un livreur qui ne travaille pas avec un GPS, il n'y a pas un préparateur de commandes qui ne fait pas du voice speaking. On trouve, peu importe l'outil et peu importe sa forme, le numérique est partout et sera partout dans les métiers de demain et d'aujourd'hui. Donc, en particulier, notre public, nous, il est le point commun de notre public. On accompagne 1500 personnes à l'année sur l'ensemble de la MEF. Notre public, il a deux points communs. Il est peu ou pas qualifié et souvent en manque d'autonomie par rapport au monde du travail et aux méthodes de recherche d'emploi. Donc voilà, donc la PDN, elle nous permet donc cette captation et puis du coup d'amener à cette réflexion sur quelle est la place du numérique dans mon quotidien, mais quelle est la place du numérique aussi dans mon activité professionnelle et comment je m'en sers dans ma recherche d'emploi. Donc on accompagne à travers cet outil-là dans tout ce qui nous ramène, nous, à notre cœur de cible, l'insertion professionnelle. Voilà. Que dire de plus, parce que
En 2024, il y avait effectivement déjà un retour d'expérience qui est solide. Est-ce que on a quelques chiffres, nous, qui apparaissent que tu vois pas, mais sur les publics accueillis en particulier
comme
le fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes légèrement et le fait qu'il y a un tiers de moins de 30 ans, un tiers de 35 ans et un tiers de plus de 50 ans. Est-ce que tu peux nous commenter un tout petit peu justement parmi ces publics accueillis, quelles sont leurs spécificités ou pas d'ailleurs sur le territoire ?
Il n'y a pas de spécificité, si ce n'est qu'il y a une particularité à la PDN, c'est qu'elle est implantée dans le quartier Opéra à Massy, et que, ça c'est un chiffre que je retiens, 70% des publics qui viennent sont massicois. C'est-à-dire qu'il y a 30% des publics qui viennent hors Massy, et donc hors du quartier. Ça c'est important, c'est-à-dire que la PDN, malgré tout, elle est l'illustration d'un besoin, de son utilité. Et donc pour nous qui sommes quand même la MEF, on doit travailler sur le territoire de Paris-Saclay. Ma question a été de me poser avec Inès, de se dire comment ce service qu'on rend et qui a l'air d'avoir une vraie utilité pour l'ensemble du territoire, on ne peut pas essayer de l'essaimer sur nos autres antennes. Donc on est implanté sur les Ulis, sur Longjumeau, sur Chilly-Mazarin, donc les quatre villes où maintenant il y a des quartiers politiques de la ville, puisque Chilly est un quartier politique de la ville. Donc comment le service qui est rendu à la PDN, on va pouvoir aussi le rendre sur ces antennes pour créer un peu plus de proximité, peut-être créer un flux différent sur nos antennes, et du coup, à travers cet outil numérique, ramener à l'insertion professionnelle.
Et en dehors de ces réflexions d'ouverture ou d'élargir, on y reviendra juste après, les perspectives pour 2025 de la place du numérique massicoise, est-ce que tu...
Alors, je manque à tous mes devoirs, on a quand même trois partenaires principaux, alors quatre avec Caton, mais Caton a déjà expliqué son implication avec la MEF.
Ils apparaissent.
Donc, outre Caton, on travaille beaucoup avec Emmaüs Connect, Columbus, qui est présent à la salle aussi, et Outsiders, qui travaille sur l'approche du jeu vidéo, des addictions, mais aussi tout ce qui peut être la partie numérique. Donc voilà, ça c'est quatre acteurs importants pour nous, puisque du coup on n'est pas des spécialistes du numérique, on s'appuie par contre sur ceux qui savent faire, pour encore une fois permettre cette passerelle avec l'insertion professionnelle. Voilà. Et donc avec ces partenaires, on va continuer à construire des outils d'amorçage, on va le dire comme ça, de formation, de préformation, de sensibilisation aux métiers, aux outils. Alors voilà, il y a des ateliers du type... Inès est plus forte que moi sur ce sujet-là, mais sur de la programmation, sur du codage. Voilà, donc sous couvert de petits ateliers, on sensibilise et on essaye de projeter sur ce que peut être le monde de demain dans les métiers du numérique. Alors, on ne veut pas faire de tout le monde des informaticiens ou des experts du numérique, ce n'est pas le but, mais c'est de toucher du doigt pour créer une appétence et une sensibilité. Et puis, voilà, par exemple, un projet qu'on veut développer, qui devrait prendre jour, puisqu'on a eu une réponse il n'y a pas très longtemps, c'est d'accompagner les seniors sur la recherche d'emploi avec l'IA, par exemple, et Google. Donc voilà, ponctuellement, mais on essaye toujours de faire que ce lien du numérique ait un rapport avec l'insertion professionnelle. Vraiment, c'est un peu une obsession. On ne fait pas du numérique pour faire du numérique, c'est pas notre sujet, on n'est pas du tout les experts dans ce domaine.
Et ça résonne effectivement bien avec ce que Catherine Wittkock nous avait exposé.